Je vous invite à retrouver l'évangile de Marc. L'évangile de Marc est chapitre 5. Pour les visiteurs, nous étudions l'évangile de Marc de manière suivie. Et donc nous arrivons ce matin à ce cinquième chapitre. Le Fils de Dieu est venu sur terre. Avec lui est venu le royaume de Dieu. À son arrivée, il dit aux âmes, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est là, repentez-vous et croyez. » C'est quoi ce royaume de Dieu? Dieu a toujours été roi, il ne pouvait pas cesser de l'être. Mais le royaume de Dieu est quelque chose qui est arrivé avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce terme, le royaume de Dieu, signifie la venue du Messie pour imposer les droits de Dieu dans un monde rebellé, révolté, et reprendre par sa puissance souveraine et par sa grâce souveraine les hommes, un peuple élu pour sa gloire. Donc le royaume de Dieu est une réalité conquérante. Et nous le verrons. Les Juifs savaient que le royaume devait venir, que Dieu devait arriver et devait changer les choses. Le royaume de Dieu, c'est quand Dieu arrive pour remettre tout d'aplomb. Tout ce que Dieu, l'homme, a gâché dans son péché, tout ce que nous avons sali. Et dans l'Ancien Testament, le royaume est annoncé, mais d'une manière un peu différente. C'est-à-dire qu'on a l'impression, en lisant les prophéties de l'Ancien Testament, que lorsque le Messie arrive, c'est la fin. D'un seul coup, Dieu va tout remettre d'aplomb. Le peuple de Dieu sera dans la félicité. Les méchants seront soit convertis en vagues. Les nations viendront à Sion. Et ceux qui refusent de se repentir seront punis. C'est un peu le phénomène télescopique. En regardant de loin, on a l'impression que deux montagnes se touchent. Mais en arrivant plus près, on voit qu'ils sont séparés par des kilomètres. Lorsqu'on est loin dans l'Ancien Testament, loin du Messie, on pense que la venue du royaume se passe d'un coup. Ça se touche. Tout ce qui doit arriver arrive ensemble. Mais en arrivant dans le Nouveau Testament, quand Jésus vient, il commence à raconter, dans des paraboles surtout, quelque chose d'inattendu vis-à-vis du royaume. Et beaucoup des paraboles racontent justement la modalité de la venue du royaume de Dieu. Lorsque Dieu est venu il y a 2000 ans, ce n'était pas la fin. Tout n'a pas été arrangé d'un coup. Et donc nous avons des paraboles qui nous montrent que c'est comme un grain de moutarde qui commence très petit. Le royaume commence très petit. Nous avons une parabole qui nous parle de mauvaises herbes qui sont semées avec la parole du royaume. Et les deux, laissez les deux pousser ensemble parce que c'est seulement à la récolte qu'on va faire le tri. Donc il y a la semence, le royaume est venu. Il y a un temps d'intervalle où c'est pas que le royaume, il y a la méchanceté encore sur terre, comme aujourd'hui, bien que Jésus soit venu. Mais le jour vient où le royaume, dans sa forme consommée et finale, viendra. Donc, Christ est venu une fois, le semeur, humble, semant une parole, mourant. Mais avec lui est venue la puissance d'un autre monde, chers amis, d'un autre monde. D'un autre monde, c'est-à-dire que nous devons comprendre que lorsque Jésus est là pendant les 3 ans, c'est la fin du monde qui est déjà venue. En microscope en lui, parce que partout où il passe, les morts ressuscitent, les malades sont guéris, les pécheurs sont pardonnés, et tout ce qui va arriver à la fin du monde arrive maintenant déjà, de manière, dans un échantillon, avec Jésus pendant 3 ans. D'accord, vous avez compris? Sa première venue, c'est simplement la fin du monde, déjà donnée en prémisse, en avant-goût, localisée là où Jésus passe, pour que nous puissions comprendre ce qui va arriver lorsque le royaume vient complètement. Il y a des gens qui pensent que les mêmes miracles que Jésus a fait doivent se faire pendant toute l'histoire. Mais un échantillon ne marche pas comme ça. Je vous ai dit, vous qui êtes là, que lorsque vous allez au magasin, il y a une dame en dehors de la porte qui vous donne des saucissons pour que vous goûtiez. Il ne faut pas revenir chaque jour en pensant que vous allez manger des saucissons. Un échantillon, c'est donné une fois pour que vous alliez plus tard dans le magasin où vous allez trouver tous les saucissons. Et Jésus vient et il donne un échantillon. N'attendez pas que les morts soient ressuscités tous les jours. C'est un échantillon pour voir, pour montrer qu'un jour, Jésus va ressusciter tous les morts. Voilà. C'est ça le sens du royaume et le mystère du royaume. C'est qu'il est là, mais de manière inattendu, provisoire, et nous arrivons à ces 5 miracles de Jésus dans les chapitres 4, et 5 et 6 de Marc. Nous avons vu donc la semaine passée que Jésus a calmé une tempête, et nous avons compris que la leçon n'est pas « Jésus est dans la barque avec toi dans tes épreuves, donc pas de crainte ». Souvent, on entend que ça, c'est la leçon de cette histoire. C'est presque le contraire. La vraie morale de cette histoire, c'est que Jésus montre en échantillon le royaume de Dieu. C'est-à-dire, la nature elle-même est en chaos. Elle devient une menace pour l'homme. La nature elle-même tue l'homme parfois. Mais un jour, quand le royaume va venir dans sa totalité, la nature sera mise en assujetti au Dieu de la nature. Nous vivons dans un monde où on est complètement béni. Et Jésus montre cette réalité en échantillon. Il est celui qui va mettre fin à toutes sortes de chaos, que ce soit en moi mon péché, que ce soit dans ton corps ta maladie, ou que ce soit dans la nature même. Et la leçon, c'est laisse les disciples avec un tremblement. Ils sont saisis de crainte. Ils ne sont pas consolés. Ils ne sont pas « Oh, Jésus est dans ma barque ». Ils ont plus peur de Jésus maintenant que de la tempête. Mais c'est une peur qui est un peu différente, n'est-ce pas? Parce que oui, il y a un côté très consolant. Lui, il est avec moi. Mais, oui, Jésus est dans ta barque. Mais des gens, des chrétiens meurent dans des tempêtes. Donc ne pensez pas que cet échantillon de la fin vous assure qu'il n'y a pas de mort de chrétiens dans les tempêtes ou quoi que ce soit aujourd'hui. Ce n'est pas ça le but. C'est pour montrer le royaume à venir. Nous arrivons donc à cet événement étonnant dans ce pays des Gadaréniens. Donc, à l'est-sud-est de la mer de Galilée, une région non pas juive, mais païen. Et dans cet endroit, cette ville où Jésus atterrit dans la barque, il y a donc des collines, un écharpement assez raide, et ensuite la mer. Et aujourd'hui, si vous allez dans cet endroit qui s'appelle, je crois aujourd'hui, la ville s'appelle Kerasa, vous verrez que dans la colline, il y a des tombeaux creusés, taillés dans la pierre. Des endroits où on enterrait des morts. Donc, Jésus arrive, il avait dit, avant que cette tempête ne vienne, il avait dit dans ses disciples, allons à l'autre bord de la mer. Et maintenant, on comprend pourquoi il devait aller. Il va pour cette âme, habitée par une légion de démons. Nous le savons parce que, si vous lisez attentivement, après avoir délivré cet homme, il repart. La seule raison pour sa venue là, pour avoir risqué la tempête, c'est pour aller délivrer cet homme. Nous avons un grand sauveur, un sauveur qui fera ce qu'il faut pour délivrer son peuple. Donc, voilà, la scène est telle. Et nous lisons au début du récit quelque chose d'intéressant dans le verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Aussitôt, dès qu'il arrive, cet homme est déjà là. Parce que, sans doute, il savait, les démons savaient l'arrivée du Seigneur. Je me souviens de la lecture de ce livre classique de John Nevius, « La possession démoniaque et d'autres thèmes ». Grand missionnaire en Chine dans le siècle passé, très bon théologien, qui ne croyait pas que la possession démoniaque existait aujourd'hui, qui est parti en Chine en tant que missionnaire et qui a changé d'avis et qui a écrit un livre là-dessus avec des témoignages de dizaines de pasteurs chinois et de missionnaires très respectables. Le mouvement charismatique n'existait pas à l'époque. Mais ces gens vivaient constamment dans la réalité de la possession démoniaque. Je l'ai vu lorsque j'ai vécu en Afrique. Mes yeux, les mêmes choses qu'on voit dans le texte du Nouveau Testament vis-à-vis des personnes possédées. Cet homme, John Nevius, raconte qu'à un moment donné, il devait aller à un certain endroit, mais ils ont avancé leur voyage par quelques jours, personne ne le savait. Ils n'avaient pas la possibilité d'avertir leur hôte qu'ils allaient venir plusieurs jours en avance. Dans cet endroit, il y avait une dame possédée par un esprit impur, Madame Crow. Et Madame Crow, à un moment donné, le jour où ils étaient en voyage, encore des kilomètres et des kilomètres plus loin, elle, saisie par cet esprit impur, a parlé par la voix, d'une autre voix que la sienne, et a dit « Ces hommes, ces trois hommes, les serviteurs viennent, et un d'entre eux, c'est Monsieur un tel. » Le pasteur et d'autres qui étaient là essayant de s'occuper de cette femme lui ont dit, mais comment est-ce que tu sais, il ne devrait pas venir maintenant, c'est impossible. Je vous dis qu'ils viennent, ils sont déjà à tel pont, et s'ils ne sont pas là avant le coucher du soleil, je ne suis pas un shin, c'est-à-dire un esprit. Effectivement, ils sont arrivés, mais le démon savait d'avance. Et nous sommes dans une scène comme ça. Les démons, la légende des démons, savent déjà avec tremblement que le Fils du Très-Haut arrive sur le bord de la mer, là où ils sont. Là précisément où ils sont. Donc, le premier point aujourd'hui, après cette introduction assez longue, mais on va essayer d'aller vite. D'abord, l'emprise de Satan dévoilée. Qu'est-ce que nous devons apprendre de cet incident? Pourquoi est-ce que Dieu nous l'a gardé dans les Écritures? La première chose que nous devons comprendre, c'est cette réalité du monde spirituel. J'espère que vous y croyez de tout cœur, parce que c'est vrai. Nous vivons dans un monde avec des anges, avec un Dieu infini, et avec des anges déchus qui sont appelés des démons. Ces êtres sont extrêmement intelligents, bien plus que l'homme. Nous ne pouvons pas imaginer. Nous pouvons voir que Daniel, lorsqu'il est visité par un ange, il est plaqué par terre, il perd toute sa force physique, simplement par la présence de cet ange qui est tellement glorieux qu'il n'a plus de force en lui. Il n'arrive plus à se lever même jusqu'à ce que l'ange le touche et mette en lui une force physique par un toucher. Donc nous sommes dans un autre monde avec les anges, une puissance, une mode d'existence différente. Et il faut aussi que nous comprenions que la Bible nous dit que l'humanité est sous l'emprise du diable, cet ange, ce grand ange déchu. Ça va, tu arrives là?
Non, c'est de l'autre côté, ouais. Excuse-moi.
D'accord, ok. Comment est-ce que cela nous touche, nous? Je ne sais pas si vous êtes tous croyants. La plupart d'entre vous, au moins. Mais toujours est-il qu'il est important pour nous de savoir, croyants ou non-croyants, que la Bible nous dit que le non-chrétien est sous une emprise complète et totale du diable. Alors, nous en avons le portrait dans cet événement, n'est-ce pas? Regardez cet homme. Il est dans une détresse mentale complète. Il est dans une folie. Deuxièmement, il est nu. Il ne garde pas les vêtements. Troisièmement, il va aller habiter parmi les morts. Il se coupe de tout contact social. Les démons lui font ça. Et ensuite, il essaie de se tuer. Ce qui est souvent le cas avec quelqu'un possédé par un démon. On voit dans les évangiles le garçon qui se jette dans le feu et dans l'eau, n'est-ce pas? Son père le dit. Il essaie de se tuer. Parce que le but du diable, en vous ayant sous l'emprise, ne soyons pas leurrés. Cet incident est là pour vous dire que Satan veut vous détruire. Être non-chrétien, c'est être dans le royaume de Satan. C'est pourquoi j'ai fait lire Jean 8 par Pierre, où Jésus dit... Donc vous faites les désirs de vos pères, de votre père qui est le diable. Il dit ça aux Juifs. Que naturellement, nous sommes sous l'emprise à cause de notre péché du diable. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, ça ne se manifeste pas d'une manière aussi extrême tout le temps. Bien sûr, hein, je ne sais pas si vous avez vu une personne possédée, mais c'est extrêmement rare. Simplement parce que Satan est intelligent. Il ne va pas vendre la mèche en paraissant visiblement partout. Mais la Bible nous dit en Éphésiens 2 ceci, « Vous étiez, en parlant aux chrétiens convertis, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Donc la Bible est très claire que tout inconscient que nous le soyons, l'homme non-chrétien, le jeune non-chrétien, vous êtes sous l'emprise du diable. On a l'impression que c'est l'autonomie, n'est-ce pas? Que moi, en refusant le Christ, je suis autonome. Mais la Bible dit justement le contraire. Et ce portrait que le Seigneur nous donne, c'est pour nous montrer, en poussant cela à l'extrême, en livrant un homme donc à cette emprise totalement, c'est pour vous dire, voilà où ça veut vous mener, le camp que vous avez choisi, le camp où vous avez choisi habiter. C'est absolument horrible. En ayant eu à une dame possédée en Afrique une fois, plus d'une... reprise, j'étais effrayé de voir ce que le diable avait fait à cette dame. Lorsqu'elle revenait à elle-même, d'un coup, elle était complètement normale. J'étais étonné de penser que c'était la même personne. Mais voilà l'emprise du diable. Et la Bible dit que personne n'y échappe sauf par le salut du Christ. Nous voyons que non seulement il y a tout ce mystère, mais il y a un cas d'extrémité. Dans le texte, nous lisons dans ce chapitre Marc, 5 de Marc, que je vais vous lire. Il disait, Marc, dans le verset 3, que cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Rendez-vous compte de cela? Une chaîne en fer. On met sur ce bonhomme et il brise les chaînes. Et cela aussi est une chose fréquemment vue dans les personnes possédées une force physique surnaturelle. Vous savez, le récit dans le livre des Actes de ces sept hommes juifs qui veulent être exorcistes et ils essaient d'exorciser un démon et le monsieur possédé s'empare des sept et les bat et les laisse nus, tous les sept. Une force physique surnaturelle. Donc, nous voyons aussi un homme, cet homme, pauvre homme possédé, dans l'extrémité, dans sa débilité totale. Complètement incapable de se libérer lui-même et personne d'autre ne peut rien faire pour lui. Ça, c'est le cas de tout homme sous l'emprise de Satan. Par définition, être esclave, c'est ne pas être libre. On parle beaucoup de libre arbitre, mais je vous assure, messieurs et dames, qu'il n'y a pas de libre arbitre pour celui qui est tenu par Satan. Et c'est pour cela que Paul dit à Timothée, dans le deuxième épître de Timothée, cet avertissement de redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Vous voyez? Donc, on est soumis, emparé par ce diable qui s'empare de nous pour nous soumettre à sa volonté. Jusqu'à ce que Dieu nous donne la repentance, Dieu sauve, Dieu libère par le Christ. Et toute la gloire est à lui. Eh bien, voilà la situation de cet homme, l'emprise du diable dévoilé. Deuxième point, l'emprise de Satan brisée par Jésus. Nous voyons que Jésus arrive sur le bord de la mer, et une confrontation très très étonnante pour moi se passe donc avec cet homme. Et nous voyons que deux choses arrivent tout de suite qui révèlent que Jésus a brisé l'emprise du diable de ses peut-être 2000 démons, parce qu'il y a 2000 porcs, vous avez bien écouté le texte, il y a environ 2000 porcs qui se précipitent dans la mer quand les démons entrent en eux. C'est très étonnant. Dans le 19e siècle, dans une ville dans la forêt noire, un pasteur qui s'appelle Johann Christoph Blumhardt est devenu renommé. Il est encore renommé. À cause d'un cas étonnant d'une dame possédée dans son église qui s'appelait Gottlieben. Je ne peux pas vous raconter tous les détails. Le maire de la ville et d'autres responsables, des hommes intelligents et instruits, ont été témoins et des témoignages ont été écrits sur toute cette affaire. Donc il n'y a aucun doute sur l'historicité de cette affaire. Mais à un moment donné, un des démons dans cette fille qui a été délivrée, qui est devenue une chrétienne fidèle après, a dit qu'il y avait 1076 démons en elle. Bon, sachant que les démons sont des menteurs, nous ne savons pas comment prendre des propos comme ça, mais c'est possible. En tout cas, nous avons la parole de Dieu lui-même qui nous dit que cette personne était habitée par une légion. Nous sommes légion, répond le démon. Et le mot légion, à l'époque, voulait dire un groupe de soldats qui comptait des centaines. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Mais nous voyons deux choses qui arrivent tout de suite. D'abord, les démons eux-mêmes, représentés par le démon principal qui parle avec Jésus, avouent la seigneurie conquérante de Jésus sur eux. Et deuxièmement, la délivrance de cet homme, après, révèle la seigneurie conquérante de Jésus. D'abord, les démons. Nous lisons dans le texte, au verset 6, « Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus ? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu viennes me causer des problèmes. Il appelle, il révèle qui il est. Le démon sait très bien. Qui y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Les démons savent plus que beaucoup d'hommes, n'est-ce pas? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria, le démon le pria, le supplia instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il leur donne permission. Nous voyons que le diable avoue avec tremblement, quelle scène, cet homme que personne ne pouvait lier. Tout le monde avait une peur bleue de lui, et lui, il est à genoux, tremblant devant Jésus. Une légion de démons, tremblant devant le Fils du Dieu Très-Haut. Ne nous tourmente pas, s'il te plaît. Et nous voyons la grandeur du Sauveur. Il est le Seigneur de tout. Il est le Seigneur d'une manière que vous et moi ne comprenons pas encore. Mais atterri devant le Christ, nous voyons que le diable lui-même avoue que le royaume de Jésus est un royaume conquérant. Il ne peut rien faire que prier Jésus, que demander la permission. Celui qui liait est lié. Sa puissance sur cet homme est complètement brisée. Il sait qu'il doit s'en aller et maintenant. Et c'est ce que Jésus peut faire pour vous. Si vous êtes tellement pris par votre désir de ne pas suivre le Christ, que vous ne pouvez pas monter en vous un désir même de s'approcher de lui. Moi, je vous dirais, criez à lui de défaire les liens qui vous tiennent. Nous voyons donc la puissance de Jésus pour délivrer, nous voyons cet échantillon du royaume à venir, et un jour tous les démons dans l'univers, tous les anges déchus et tous les hommes impénitents fléchiront devant le Christ de la même manière. Parfois, les écologistes se fâchent avec Jésus maintenant, parce qu'il envoie ses démons dans les pourceaux et tout le troupeau périt, à peu près 2000 pourceaux. J'aurais envie de dire plusieurs choses là-dessus, mais je vais juste quand même vous rappeler d'une chose. Les éleveurs élevaient ces porcs non pas pour qu'ils vivent une vie paisible et heureuse et qu'ils meurent naturellement, mais ils les élevaient pour le boucher. D'accord? Donc, de toute façon, ces porcs allaient finir mal très bientôt. Il n'y a rien dans l'action de notre Seigneur qui soit reprochable, loin de là. Tout lui appartient. Il fait ce qu'il veut avec les animaux et les hommes. Tout est à lui. Pourquoi donc fait-il en sorte que donne-t-il la permission aux démons? Pourquoi exauce-t-il la prière d'un démon? Ah voilà, une chose étonnante. Mais sans doute le Seigneur est en train de révéler quelque chose de très important pour nous en les permettant de faire ainsi. Dans un premier temps, lorsque les démons quittent et vont dans cet homme, tout le monde qui témoigne, les éleveurs qui vont raconter à tous les villages, ils voient visiblement combien de démons étaient dans cet homme et ils voient combien la puissance de Jésus était grande pour chasser d'un coup tous les démons de cet homme. On voit toute cette armée de démons partir assujettis dans des porcs qui périssent. Et on a maintenant la mesure, palpablement, de ce que Jésus vient de faire. Ça ne va pas se passer invisiblement. Jésus va révéler quelle est la puissance dont il use. Deuxièmement, surtout, en permettant aux démons d'aller dans ce troupeau, Jésus est en train de montrer encore la modalité de son royaume. Le royaume ne vient pas d'un coup. Dans la version de Matthieu, les démons disent, il ajoute ce détail, « Est-ce que tu es venu nous tourmenter avant le temps ?» C'est-à-dire, les démons savent très bien que la fin vient, le royaume dans toute sa puissance vient, et à ce moment-là, tout démon sera jeté dans l'abîme, dans l'enfer, dans le lac de feu. Et ces démons-là, ce jour, savent que Jésus pourrait le faire maintenant. Mais Jésus montre que ce n'est pas encore le temps. Je viens pour montrer ma puissance aux hommes et mon salut, mais non pas pour mettre fin à la possibilité des démons de travailler dans le monde. Ça va durer encore jusqu'à ce que je revienne. Donc la modalité du royaume est encore claire dans la manière où Jésus brise la puissance de Satan, mais il ne lui enlève pas encore complètement. Le démon révèle donc la seigneurie de Jésus, mais aussi la délivrance de cet homme, lorsque nous le voyons. Et dans le verset 15, si vous voulez bien regarder, nous lisons ceci. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les gens du village, le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. L'humanité restaurée à ce qu'il devrait être au départ. Un homme en paix, vêtu dans son bon sens. Et ça, c'est l'évangile. Le Christ vient pour restaurer l'humanité, pour restaurer des hommes à ce qu'ils devraient être. Et non seulement est-il vêtu, assis dans son bon sens, dans la paix, mais il est en relation avec le Christ maintenant. Parce qu'il dit à Jésus, « Laisse-moi venir avec toi. Je veux désormais donc te suivre. » Et Jésus lui dit, non, tu vas rester ici et tu vas raconter tout ce que j'ai fait pour toi. C'est-à-dire le premier missionnaire parmi les gentils. Le premier missionnaire que Jésus-Christ envoie parmi les peuples non païens, c'est un homme auparavant habité par une légion de démons. Quel changement! Jésus est Seigneur conquérant. Quel homme béni maintenant, autrefois un objet d'horreur, heureux, c'est lui, maintenant un objet d'émerveillement. Parce que regardez le dernier verset du passage, c'est le verset 20, il s'en alla, donc l'homme, autrefois possédé, et se mit à publier dans la Décapole, région païenne, tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Maintenant on s'émerveille de lui. C'est vrai? Voilà un petit bonhomme, un garçon, qui dit à son papa un jour, « Papa, c'est quoi ces chaînes que tu gardes toujours à côté du mur à la maison ?»« Eh ben, ça c'est des chaînes avec lesquelles on m'avait lié autrefois. »« Papa, qui t'avait fait ça ?»« Ben, c'était les gens du village. » Mais papa, pourquoi est-ce qu'il t'avait lié? J'étais un homme enragé et violent, dans la folie. Toi, papa? Eh bien, pourquoi est-ce que les chaînes sont brisées? Qui les a brisées? C'est moi qui les a brisées. Papa, toi, tu les as brisées? Comment tu les as brisées? Mon fils, j'étais possédé par des démons d'une puissance surnaturelle. Je ne peux pas t'expliquer tout cela. Et pourquoi tu gardes les chaînes, papa? Ah, ça c'est pour me rappeler ce que j'étais et ce que Jésus a fait pour moi. Le dernier point, la tragédie de l'empire de Satan préféré au royaume de Jésus. Nous avons vu l'homme sous l'emprise de Satan, nous avons vu l'emprise de Satan brisée par Jésus, et maintenant une tragédie se passe. Nous lisons au sujet de la réponse du village, ceci, au verset donc 14. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville, dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de reconnaissance, joie pour le voisin qui maintenant est de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. C'est vraiment comme ça que ça devait se passer. Venez voir, ben, c'est lui, comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on vous raconte. Cette barque est arrivée, il raconte tous les détails. Et qu'est-ce qui se passe après? Alors, verset 17, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. On se demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment peut-on faire rimer une telle réponse à une telle action de Jésus-Christ? Il y a un thème qui jalonne le passage, c'est ce thème de vouloir rester dans un endroit. Vous avez vu qu'au début, les démons ne veulent pas quitter le pays. Ne nous fais pas quitter le pays. Et puis, le village dit à Jésus, quitte le pays. Et puis, le monsieur qui est guéri, il dit, je veux aller avec toi. Et Jésus dit, non, je ne veux pas que tu quittes le pays. D'accord? On va essayer de comprendre pourquoi Marc nous présente tout cela. D'abord, essayons de mettre un peu de sens dans ce refus de Jésus. Les gens qui supplient Jésus, c'est les mêmes termes. Les démons suppliaient Jésus de ne pas les faire partir du pays. Et maintenant, les villageois supplient Jésus de quitter le pays. Comme pour dire, nous préférons nos démons. C'est bien qu'ils ne soient pas quittés. Mais toi, nous voulons que tu quittes. C'est assez incroyable, n'est-ce pas? Mais c'est exactement la réponse des non-chrétiens à l'évangile, à Jésus-Christ, n'est-ce pas? L'évangile vient vers vous. Et vous dites, moi je préfère tout ce qui est contre la foi chrétienne, je veux que cela habite, je veux y habiter, ça me plaît, je suis à l'aise dedans, ça me donne un sens de bien-être, c'est ce que je veux et je ne veux surtout pas, je te supplie, je ne veux surtout pas que Jésus-Christ soit près de moi. C'est ça le péché. C'est ça qui mérite l'enfer. Une attitude tellement contre, en haine avec le Christ, qu'on ne supplie surtout pas toi. Oui, une légion de démons, mais surtout pas toi. Et c'est pour ça que le Christ dit à un moment donné, ils m'ont haï sans cause. Le péché est toujours irrationnel. Pourquoi est-ce que tu vas supplier un homme de quitter ton pays lorsqu'il vient de délivrer un de tes voisins du pire de la pire des tragédies? Il y a des gens qui disent, ah ben c'est parce que Jésus a ruiné l'économie du village en faisant mourir les pourceaux. Je ne crois pas, selon le texte, que ce soit ça, je vais vous montrer pourquoi, mais je veux quand même en dire une chose. Si c'était ça, imaginons cela. Je suis d'accord avec vous que quand Jésus-Christ vient dans ta vie, s'il vient, il va complètement bouleverser tes valeurs. Il va les mettre en pièces, toutes les valeurs. Voilà des âmes qui préfèrent leur pourceau à la vie de leur voisin. Si c'est ça, oui, Jésus est venu pour changer ça. Ça va être bouleversé. Il ne va pas laisser intact cela. Mais je ne crois pas que ce soit pour cela. Parce que si nous lisons attentivement le texte biblique, nous voyons autre chose. Nous voyons dans le verset 16 ceci. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque. Pardon, j'aurais dû remonter un peu au verset... En tout cas, je vais vous dire, je ne le vois pas sous les yeux. Mais quand on nous raconte qu'ils ont vu cet homme qui est assis, vêtu et dans son bon sens, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ce n'est pas la vue de ce qui s'est passé au pourceau, parce qu'ils ne l'ont pas vu. C'est la vue de l'homme assis, vêtu et dans son bon sens qui les a fait prendre peur. Parce qu'ils se sont rendus compte d'une puissance qui est vraiment complètement autre de la puissance des démons. Une puissance qui va terrasser une légion de démons, qui est seigneur des démons, des animaux et des hommes, parce que ce n'est pas une puissance qui délivre ce bonhomme et le laisse autonome. Jésus se saisit de cet homme qui est maintenant attaché à lui. La seigneurie de Jésus, ça fait peur aux hommes pécheurs. Mais je vous supplie de n'en avoir pas peur. C'est une folie d'avoir peur de cela. Mais oui, Jésus est Seigneur. C'est lui qui va diriger ta vie. C'est lui le Seigneur. C'est ça l'évangile. Le royaume de Dieu, c'est un royaume. Et c'est ça que les gens ont senti quand ils ont vu cet homme d'un coup délivré. Parce que vous voyez, les démons pouvaient le rendre fou, pouvaient faire beaucoup de choses, mais ils n'arrivaient pas à le tuer. On voyait quand même, on était en présence d'une puissance créée limitée avec les démons. Mais quand le Christ est venu, on était en présence de l'infini, du Dieu transcendant, du Fils très haut, de quelque chose d'autre qui dit, vous êtes à moi, je vous appelle, vous allez fléchir le genou. Ah, c'est pour ça qu'il voulait qu'il parte. Ah, mais la grâce du Seigneur, la grâce du Seigneur Jésus, comment a-t-il répondu à cela? A-t-il dit, ça y est, c'est bon, ok, toi que j'ai guéri, tu viens avec moi. Là, vous m'avez rejeté, je vous rejette. Non, cet homme le supplie, je veux être avec toi. Et Jésus dit non, va chez toi et dis où tiens tout ce que Dieu a fait. C'est-à-dire, ces gens qui viennent me supplier de ne pas rester chez eux, qui voulaient rien avoir à faire avec moi, Jésus le dit, je veux avoir affaire avec eux. Moi, je te plante au milieu d'eux, je plante mon évangile, je plante un exemple vivant de ce que je peux faire pour eux, de ce que je veux faire pour eux, alors toi tu restes et raconte partout ce que Dieu a fait pour toi. Dans, et comment il a eu miséricorde de toi. Pourquoi est-ce que Jésus laisse quelqu'un là pour raconter tout ce que Dieu a fait pour lui et comment il a eu miséricorde de lui? C'est ça que le texte dit. Comment il a eu miséricorde? Parce que Dieu veut vous dire à chacun de vous et à tout homme, voilà ce que je peux faire pour toi et voilà, j'aime avoir miséricorde du plus malheureux, du plus éloigné, de l'homme possédé même. La miséricorde de Dieu. Dieu aime la miséricorde. Il aime faire grâce. C'est ça que le texte veut dire. Qui peut dire que Dieu n'est pas un Dieu qui sauve le pécheur quand on a l'homme, les gens parmi nous, n'est-ce pas? Et qui est renvoyé chez nous pour raconter, pour rester. Le bonhomme avait raison de vouloir partir avec Jésus. Mais là où il n'avait pas raison, c'est qu'il n'avait pas besoin de la présence physique de Jésus pour que Jésus soit avec lui. Il pouvait rentrer chez lui et avoir Dieu avec lui et l'Esprit de Dieu avec lui pour le guider, pour donner la lumière. Maintenant, je termine avec ceci. Détail intéressant. Apparemment, son témoignage a porté fruit. Parce que vous savez que la prochaine fois que Jésus est venu dans la région de la Décapole, Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on le supplie de partir? Vous allez trouver vous-même dans l'évangile. On lui amène un âme sourd et donc, qui ne peut pas entendre, sourd et muet, oui. Et donc, on lui demande de guérir cette âme. Et apparemment, quand Jésus multiplie les pains pour les 4000, c'est là, dans cette région. Il semble, selon le commentateur. Donc, il semble que la région s'ouvre à la bonne nouvelle des non-juifs, des païens. Et on a juste un petit échantillon d'une évangélisation parmi les non-juifs que Jésus laisse arriver pour montrer ce qui viendra. Alors, vous êtes non-juifs, vous? Est-ce que vous êtes venu au Christ? Est-ce que vous avez vu que Jésus est le Seigneur? Est-ce que vous avez compris que vous êtes sous l'emprise du diable? Que vous le vouliez ou non? Tellement fier que vous êtes, non, moi je fais ce que je veux. Non, vous êtes tout simplement un esclave pitoyable du diable, c'est tout. Comme nous avons été. Et je vous appelle à l'avouer, à avouer votre besoin désespéré de la grâce du Seigneur et la puissance du Christ seul qui peut délivrer. Que le Seigneur nous bénisse. Si vous êtes chrétien aussi, vous avez besoin de prier tous les jours, délivre-nous du malin. Peut-être après, ce matin, vous priera ça avec beaucoup plus de confiance, en sachant qui est ce Jésus qui délivre, qu'il est toute la gloire. Nous allons chanter ensemble le numéro, enfin le, un chant dans le carnet plutôt, qui s'appelle « Tiens, nous sauveurs près de toi ».